RCF.
Et on poursuit la découverte de la règle de Saint-Benoît avec Don Guillaume à partir d'un ouvrage que vous avez rédigé, Ta lumière sur ma route. Bonjour.
Bonjour.
Alors Don Guillaume, pour vous, c'est une évidence en fait cette règle, c'est une sagesse qui est proposée à chacun. Est-ce que vous diriez que la règle de Saint-Benoît, c'est un peu un anti-prêt-à-penser, une sorte de dogme pour éviter ce vers quoi on irait un peu par paresse? Est-ce que c'est une sorte de vigilance à rester éveillé?
Je pense que c'est vraiment quelque part la caractéristique du christianisme, en fait, d'être une clé pour regarder le monde autrement. Je dis souvent qu'au fond, être chrétien, ça devrait rendre intelligent, normalement. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais enfin, normalement, ça devrait être ça. Et je pense que la règle se situe exactement dans la même perspective. C'est-à-dire qu'elle interroge ce qui nous paraît évident et qu'elle nous oblige à comprendre ce qui, en fait, se trouve en soubassement de notre être, donc derrière nos pensées, hein, ce qui est un peu du fonctionnement inconscient, mais aussi de nos habitudes, de nos manières de réfléchir, de notre approche du monde. C'est un point d'interrogation plus qu'une manière de faire, en fait.
Alors vous dites ça, mais malgré tout, dans la règle, on est quand même très guidé. Il est beaucoup question de sanctions, de châtiments, de punitions, de réprimandes. C'est vrai que ça évoque plus un code pénal, quelque chose de même sévère, de même dur.
Alors si vous lisez la règle comme un règlement, c'est ce que vous comprendrez, ça c'est sûr. En fait, la règle...
Mais les mots sont là malgré tout.
Oui, mais si vous voulez, ça sort de la spiritualité bisounours, quoi. Mais ça montre, si vous voulez, que le défi est important. C'est-à-dire que derrière les choix, derrière la manière de penser, de réfléchir, il y a des enjeux importants. Et donc, si vous voulez, je crois qu'aussi, c'est important de découvrir que le mal, il n'est pas d'abord à l'extérieur, il est d'abord à l'intérieur de soi. Et que c'est important de prendre conscience de ça. C'est-à-dire que la frontière vraie entre les bons et les mauvais moines, ce n'est pas extérieur. Hein. Comme dans le chapitre 1, où vous avez d'un côté les bons moines et de l'autre côté les mauvais. Je pense qu'en fait, si on veut être honnête, on est les quatre à la fois durant une journée. Hein. Et je pense que ça, c'est important de prendre conscience que peut-être les choses ne sont jamais aussi claires et aussi limpides qu'on veut bien le croire. Et donc, la sanction, la reconnaissance de la faute est quelque chose d'important, je crois, dans une existence. C'est-à-dire, accepter qu'on s'est trompé, qu'on doit se corriger, qu'on doit se remettre sur la ligne droite, que ça va demander un effort, ça me paraît évident.
Alors vous parliez d'honnêteté, justement, est-ce que c'est pas ça le cœur aussi de la règle, c'est être honnête avec soi-même, avec Dieu, avec les autres, sortir de l'illusion de ce qu'on pourrait croire, de ce qu'on est devenu?
Oui, mais le problème de l'honnêteté, c'est que on peut penser l'être et en fait se tromper complètement sur soi. Et je pense que plutôt, je dirais que la règle, son sens, c'est de sortir de l'aveuglement et de l'illusion. C'est-à-dire de cette impression qu'au fond, notre vision du monde est la bonne, qu'on voit les choses de manière juste et que, au fond, ce que les autres nous apportent, c'est simplement un complément d'information. En fait, on a besoin absolument des autres pour se voir.
Vous diriez que Saint-Benoît fait une sorte de mise en garde?
Non, je crois qu'il faut voir la règle comme un cheminement. C'est-à-dire, Saint-Benoît accompagne une personne sur un chemin de naissance et de croissance. Et je crois que la véritable naissance, c'est quand on prend conscience que ce moi qu'on met sans cesse en avant, un moi-je, etc., en fait, c'est une apparence. Et que notre être véritable, il est ailleurs. Et quand on a pris conscience de ça, de cette espèce de disjonction entre notre vérité et puis l'apparence dans laquelle on vit depuis toujours, en fait, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant, quoi.
Vous dites dans votre livre, d'ailleurs, que ce n'est pas tant l'obéissance qui est demandée que la désobéissance à soi-même.
Oui, c'est-à-dire, en fait, le chapitre de l'obéissance m'a toujours beaucoup interrogé, hein, parce qu'on en fait un peu une espèce de règle, enfin un règlement, exactement. Hein, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, l'obéissance, c'est de la soumission. Or, nous sommes déjà soumis. Nous sommes soumis à nos passions, à nos peurs, à nos doutes, à tout ce qui nous mène par le bout du nez depuis toujours sans qu'on en ait conscience. Et en fait, la règle de Saint-Benoît, c'est plutôt apprendre à désobéir à ce qui nous conduit inconsciemment. C'est une espèce d'insoumission. Nous sommes des insoumis.
Ah, ça plaira à certains de nos auditeurs. On va revenir sur qui est Saint-Benoît pour comprendre dans quel contexte il a écrit cette règle. C'est un personnage donc du 6e siècle. Alors, c'est amusant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de paradoxes. Il est à la fois noble, mais il vivra simplement. Il est studieux, mais il ne terminera pas ses études de lettres. Il est amoureux de la solitude, mais il va rassembler beaucoup de moines autour de lui. C'est vraiment un homme de paradoxes.
C'est un homme normal. Je pense que les gens qui sont d'un seul bloc, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Peut-être que c'est ça qui est intéressant avec Saint-Benoît, c'est de découvrir qu'un saint est aussi quelqu'un qui tâtonne, quelqu'un qui cherche, qui se trompe, qui avance.
Oui, et puis quelqu'un qui renonce au pont à cette fausse cohérence dont on veut souvent nous affubler. Hein. Cette idée que quand on est cohérent, on doit faire ceci ou cela. En fait, personne n'est jamais cohérent. Et tant mieux d'ailleurs. Parce que j'avais un moine dans ma communauté qui disait avec beaucoup d'humour que la marche est un déséquilibre contrôlé. C'est-à-dire que quand on marche, on est forcément en déséquilibre permanent. Sinon, on n'avance pas. Et il disait que les gens équilibrés restent sur place et n'avancent pas. C'est tout à fait ça.
L'équilibre est fait pour être rompu.
Oui, mais je pense que, vous voyez, par rapport à cette espèce de doxa continue qu'on entend, qu'est-ce que c'est qu'être équilibré, bien dans sa peau, etc. Ça n'existe pas. Et les gens qui sont équilibrés, en fait, ils sont déjà morts. Il n'y a que dans le cimetière qu'on est équilibré. Les gens vivants changent. Et ils ont le droit de changer. Ils ont le droit de se poser des questions. Et on a le droit d'avoir des crises dans sa vie. C'est important. Ce n'est pas un drame. Ça me paraît même une nécessité, une chose très importante. C'est pour ça que, par exemple, dans le chapitre 57 de la règle, quand saint Benoît parle de ce frère qui veut partir, là, puis qu'il faut absolument l'empêcher de partir, c'est un chapitre magnifique parce qu'au fond, saint Benoît dit qu'on ne peut pas laisser quelqu'un partir sur un coup de tête dans une crise. Il faut qu'il comprenne, au fond, il faut qu'il fasse un chemin intérieur. Et puis après, il faut lui rendre sa liberté, c'est tout à fait normal. Mais dans un moment où de très grandes difficultés, si quelqu'un part, en fait, il ne résout pas la problématique qui est apparue dans son cœur. Il va reproduire à l'extérieur le même problème tout le temps. Et il y a des gens qui passent leur temps à reproduire toute leur vie la même problématique.
Puisque vous parlez de crise, on va s'arrêter sur la crise que traverse l'Église, puisque vous y faites allusion rapidement dans l'ouvrage. Vous dites que lorsqu'on analyse la crise de l'Église et de la vie religieuse aujourd'hui, on cherche souvent des causes qui sont sociologiques, on propose du coup des solutions qui sont un peu dans le même sens. Mais pour vous, au-delà de ce sur quoi vont s'arrêter les médias, on devrait plutôt se repencher sur le seul moyen véritable que le Seigneur a donné à son Église, à nos communautés d'ailleurs et à notre société, à notre ordre, c'est la sainteté. Pour autant, elle ne se décrète pas.
Oui, mais justement, la sainteté, c'est une manière d'aborder la crise comme quelque chose qui va nous faire grandir. C'est-à-dire, je pense que si vous voulez, dans une vie monastique, par exemple, l'effondrement, la perte de sens, le moment où on n'y voit plus rien, où on n'a plus envie de rester, etc.
Oui, vous le décrivez bien, ce moment un peu d'usure, où l'élan, les premiers élans s'arrêtent.
Oui, où s'arrêtent, où tout semble vain, inutile et stupide, etc. Où on se demande ce qu'on fait là. Ce sont des moments très importants. Parce qu'au fond, si vous voulez, c'est comme si Dieu enlevait progressivement tous les bâtons dont on a besoin, hein, sur lesquels on s'appuie dans son existence, et qu'on se retrouve sans rien, face à l'infini. Et je pense que c'est vraiment le sens d'une vie monastique, c'est-à-dire de nous mettre face à cet extraordinaire infini du monde, de la réalité, et sortir un petit peu de tous ces machins pré-pensés, pré-mâchés, etc. Toutes ces pensées qui sont déjà, toutes ces explications toutes faites.
Qu'est-ce qui, dans la vie de Saint-Benoît, vous fait penser que lui aussi a avancé, a passé des crises aussi?
La preuve, c'est qu'il est parti en claquant la porte de Rome pour aller devenir ermite. Puis ensuite, il est élu abbé d'une communauté et les moines veulent l'empoisonner, au sens propre et au figuré. Et donc, ils sont là, il va fonder d'autres communautés, etc. Et je trouve que c'est intéressant parce que Saint-Benoît n'a pas une idée figée de ce qu'est la vocation. Il est attentif à cette espèce de... Vous voyez, je crois que c'est le caractère d'un génie. et Saint-Benoît en est un, c'est de savoir mettre des mots sur ce que les gens sentent, mais sans pouvoir l'exprimer vraiment. La personne géniale, elle n'est pas extraordinaire, elle a cette capacité de dire simplement ce que tout le monde sent, mais que les gens n'ont pas la capacité de dire. Mettre des mots, et je crois que c'est ce que fait Saint-Benoît. En fait, il met des mots, pas seulement des paroles, mais une forme sur une intuition qui traversait la société de l'époque. Et je crois que c'est pour ça qu'en fait, il a attiré des gens.
Parce que sa règle, il l'a écrit, pour le coup, dans son dernier
À
endroit,
la fin, oui.
à la fin. C'était au Mont Cassin, aussi en Italie.
Oui, en Italie, au sud de Rome.
Comment s'est déroulé ce processus d'écriture de la règle? Il a écrit un petit peu chaque jour. Est-ce qu'on sait précisément?
Non, en fait, on ne le sait pas parce qu'on pense aujourd'hui que la règle de Saint-Benoît, en fait, c'est un coutumier. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est une manière de mettre par écrit des choses qui étaient vécues déjà dans la communauté. C'est une manière, si vous voulez, de mettre par écrit une expérience, en fait. Et alors,
On pourrait dire l'expérience de Saint-Benoît,
Oui,
l'expérience de la communauté de
plus
Saint-Benoît.
que Saint-Benoît, oui, c'est vraiment l'expérience d'une communauté autour d'un abbé, un Saint-Benoît, et qui petit à petit prend forme. D'ailleurs, il y a deux chapitres sur l'abbé, par exemple, hein, tout au début et tout à la fin de la règle, avec des nuances entre les deux. Et on voit bien donc qu'il y a des variations dans la manière de penser les choses.
Merci, Don Guillaume. Nous parlons de votre livre Ta lumière sur ma route, qui est un commentaire de la règle de Saint-Benoît aux éditions Salvator. Merci à vous.